Merci beaucoup à toute notre table ronde. Nous passons maintenant à la période de questions et de commentaires. Ma question s'adresse à Elma Mose. Vous aviez indiqué que chez les aînés, on manifeste, plusieurs personnes disent qu'ils ont, en fait, on parle beaucoup du fait d'avoir deux cultures dans les communautés créées. Comment envisagez-vous les communautés anglophones? Et en fait, la réalité des anglophones comme minorité. C'est une réalité, en fait, c'est une question d'ordre générationnel. Comme on a abandonné le mode de vie nomade pour être plus sédentaire, c'est toujours notre culture, c'est pas deux cultures, c'est une culture qui se manifeste différemment, qui doit s'adapter à la vie contemporaine. Pour ce qui est des minorités anglophones, je suis une minorité aussi à Montréal. Et je fais partie d'un groupe linguistique minoritaire. Et je vais je dois choisir comment je préfère me faire desservir par le système de santé. Je connais moins les communautés anglophones, même si mon époux est bilingue, francophone-anglophone. Les services de santé auxquels on s'adresse sont offerts en français, mais les Cris du Nord et les services offerts le sont depuis très peu. En fait, le gouvernement provincial cherche davantage à offrir des services dans les territoires du nord du Québec. Avant, c'était des services fédéraux. Les infirmières étaient toutes anglophones. Et depuis les années 70 et 80, les prestataires de services de santé sont plutôt francophones. Mais chez les Cris, pour ceux qui ont été à l'école, la langue seconde est l'anglais. Une minorité d'entre nous ont le français. En fait, comme moi, j'ai été au pensionnat en français, je suis plutôt une minorité. Il faut démêler les langues, comme on dit. Mais certains aînés ne parlent que le cri. Oui, c'est problématique. Parce que la traduction est parfois problématique. Ça crée des problèmes pour les médecins, les infirmières. Et vous pouvez imaginer la qualité des services dont ils bénéficient. À titre personnel, j'étais à l'hôpital avec ma fille qui était malade et à 10 heures le soir, ils m'ont contacté pour traduire un homme aîné qui parlait uniquement cri. Et j'ai traduit la conversation en cri et c'est comme ça qu'il a pu obtenir le meilleur service, mais si je n'avais pas été là, la situation aurait été très différente et sa santé aurait pu empirer. Je ne réponds pas à votre question sur les minorités anglophones. Merci. Quand vous discutiez de la douleur, comment plusieurs médecins, quand ils vous demandent de décrire la douleur, on demande de décrire la douleur d'une échelle, sur une échelle de 1 à 10, mais c'est un point de vue très culturel et ça doit être difficile pour différentes cultures qu'on demande sur une échelle de 1 à 10, mais voilà. C'est une anecdote, mais ma question, on parle beaucoup des répercussions culturelles et dans différentes communautés culturelles, la vision de la médecine est différente. Ou en fait, la vision de la médecine dépend de la communauté culturelle et dans plusieurs cultures, même dans les établissements d'enseignement, la culture se définit différemment. Et comment peut-on rattacher cette réalité aux implications culturelles des barrières linguistiques? Je suis tout à fait d'accord avec vos commentaires. Et quand on tient compte d'une approche écologique, économique, se rattache au niveau de l'institution où là où la majorité se trouve, les barrières importantes présentes, peu importe les questions majorité ou minorité, plusieurs barrières en fait francophones et anglophones. Étant francophone au sein d'un établissement anglophone, je vois comment les services sont organisés, ou comment on présente, ou comment la norme est définie. Et comme francophone, et peu importe si je suis originaire de la France, ça va à l'encontre de mes valeurs ou de ma façon de faire les choses, ou que tout doit être à l'heure précise, qu'une réunion s'organise en 30 minutes, c'est des détails, mais la manière dont on aborde les patients et les familles est différente selon le contexte. On voit des différences dans les deux communautés linguistiques. Et ça va au-delà. La question minoritaire. Bref commentaire, j'ai étudié la fumée secondaire il y a quelques années et on a comparé les données entre les francophones au Québec, des groupes d'étudiants francophones au Québec, à l'extérieur, anglophone, à l'intérieur, à l'extérieur du Québec, pour voir où les minorités et ou comment les minorités et majorités se comparaient. Et j'ai vu que les francophones se trouvaient au centre. Ils étaient influencés par la culture anglophone et ne se comportaient plus comme la population du Québec. Par exemple, si on prenait des mesures pour fumer à l'extérieur ou en dehors de la voiture. Et au Québec, il y avait beaucoup de tolérance, mais tandis qu'à l'extérieur même, les francophones étaient très stricts. Pas de fumée dans les voitures, pas à la maison. Et c'est comme un glissement de la culture entre une situation minoritaire, majoritaire, selon le contexte. Je ne sais pas si je réponds correctement, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre étude. Selon moi, encore une fois, si on se présente à l'hôpital, aux urgences, pour une césarienne, une chirurgie, on sait qu'on veut être entre les mains d'experts et se faire prendre en charge, suivre le protocole parce qu'ils connaissent leur métier mieux que quiconque. C'est un domaine d'expertise qu'on leur accorde et c'est très différent quand on parle de prévention, de pratique de prévention et la manière dont on informe la population. Par exemple, les vaccins contre la grippe ou aller se faire vacciner. Pourquoi on devrait se faire vacciner? Et il serait sage d'aborder la médecine sous plusieurs angles. L'espérance de vie est en partie attribuable à la prévention, aux interventions précoces, au diagnostic précoce, plutôt que de retarder le rendez-vous auprès du médecin à cause de la difficulté de communiquer avec la majorité. Et la dimension culturelle est très importante quand on considère la vie quotidienne des gens. Comme on nous l'a dit, les communautés peuvent offrir un facteur de protection, mais en même temps, on voit apparaître des différences dans la manière dont on aborde la maladie. Pour ce qui est des formes de guérison traditionnelle CRI, à McGill et à l'Université de Montréal et l'Université d'Ottawa, on entreprend des recherches avec des communautés CRI sur la médecine traditionnelle. Et il y a également projet pilote sur les guérisseurs traditionnels CRI. Parce que c'est une forme de médecine qu'on utilise encore chez ou dans les familles plus traditionnelles, on se tourne davantage vers les médecines autochtones CRI. Et ma famille fait partie des minorités plus traditionnelles et mes parents ont 85 ans et ils n'ont pas développé de diabète. Ils mangent encore beaucoup d'aliments traditionnels, caribou, les baies, et d'autres formes d'alimentation traditionnelle. Même si leur mode de vie est occidental, leur alimentation est occidentale également. Pour ce qui est de la recherche, on étudie les médecines traditionnelles et la guérison traditionnelle, un mouvement d'information, de prévention. En fait, d'éducation et de formation d'infirmières CRI. Aujourd'hui, on a un médecin CRI qui est Dr. Kitty à Chistasibi, la Dr. Kitty à Chistasibi, et elle disait que ses patients atteints de diabète, ceux qui lorsqu'ils quittent la communauté pendant quelques semaines pour renouer avec le territoire, les taux de glycémie baissent parce qu'ils ont davantage accès aux aliments traditionnels, tandis qu'au sein de la communauté, c'est des aliments transformés et des aliments occidentaux. Et façon intéressante. Alors, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle en parle dans sa présentation. Voilà, une dernière question. Je pense que ma question, ça va davantage à Anne et Joanne. Anne, vous avez parlé des attitudes quant à la fumée secondaire et vos statistiques sur les minorités et la FTLT. Vous avez attiré notre attention sur un aspect bien particulier. 48% des francophones en dehors du Québec ont une identité hybride qu'ils se considéraient comme anglophones et francophones. Et 50% des anglophones au Québec ont la même notion. Et quand on envisage ce type de statistiques, ces communautés qui sont très bilingues et intégrées dans les majorités, n'ont pas seulement question en matière d'identité, de langue, mais les caractéristiques des deux langues peuvent devenir importantes. Par exemple, un sondage général sur les services sociaux, le bénévolat, la confiance et plusieurs pratiques culturelles. C'est frappant de voir que les francophones à l'extérieur et anglophones au Québec se trouvent entre deux majorités, anglophones et francophones, et ils se ressemblent pas dans toute leur dimension. Mais quand on commence à établir des liens entre les deux cultures, là d'où on vient, là où on se rencontre, c'est une notion intrigante. Par exemple, une famille mixte qui habite au Manitoba. La famille reste mixte. Alors, pouvez-vous me dire quelques mots sur l'évolution des tendances, les minorités? À quel point voyez-vous des ressemblances entre les deux groupes minoritaires? C'est une question un peu compliquée, mais pour vous, en fait, quelques commentaires. On voit des ressemblances. Bien sûr, les deux groupes se trouvent entre deux cultures, mais ça dépend. Du contexte, les différences sont énormes, que ce soit une communauté où on partage une langue unique, une culture semblable, ou ceux qui sont plus dispersés. Chez les francophones qui sont dispersés, on tend plus à se comporter comme la majorité parce qu'on n'a pas le choix. Et la seule vie qui leur reste comme francophone est au sein de la famille. Et certaines personnes se retournent, en fait, cherchent à sensibiliser leurs enfants à la perte de la tradition de la langue et veulent que leurs enfants puissent renouer avec la langue. À Saskatoon, Regina Calgary, des parents qui insistent pour que leur enfant aille à l'école en français pour que l'enfant puisse avoir l'occasion de garder sa culture. Je suis assimilée, mais je me sens francophone. Au fond, je parle en français, pas toujours, mais autant que possible, pour pas que mes enfants oublient qu'ils sont francophones aussi. Je vais m'arrêter ici après. Dans les nouvelles générations, on voit que les enfants de mariage mixte sont en situation minoritaire, comme c'est le cas pour mes propres enfants. Ils ne se définissent ni comme anglophones, ni comme francophones, mais comme bilingues. La recherche le montre et c'est réellement vrai. En termes de culture, ils culture, probablement le meilleur des deux cultures pour créer leur propre culture. Mais je ne sais pas c'est quoi la culture bilingue. Voilà. Très bien. Connaissez-vous, avez-vous des données à montrer sur la... En fait, connaissez-vous les résultats de la recherche sur la confiance envers les institutions? On ne comprend pas la réponse sans le micro. So we will continue. Sur ce, nous faisons une pause pour le dîner et poursuivrons par la suite. Bon appétit et merci beaucoup. Thank you very much.